Le paddock RMC, Louis Gerbier.
Buenas muchachos, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du paddock RMC, le warm-up du Grand Prix de Mexico. On va parler évidemment de la bataille pour le titre entre Piastri, Norris et Verstappen qui n'en finit plus de se rapprocher. Mais tout de suite, je vous présente l'équipe pour vous servir avec l'imitateur officiel de Toto Wolff, Arnaud Valadon. Salut Arnaud.
Hola, ingenieros.
Oh, là on y était. Et notre Adrian Newey de la bande, Séraphin Bette, salut.
Buenas dias.
Allez, je vous donne tout de suite le sommaire. Donc comme je vous le disais, on va parler de la remontada de Max Verstappen, car c'est clairement dans toutes les têtes, pas seulement la sienne ou celle de McLaren, mais tous les fans de F1 ne pensent plus qu'à ça. Puis on verra si du côté de McLaren, justement, on commence à prendre des décisions au niveau des consignes entre les pilotes, ou si toujours on y va à tâtons. On abordera ensuite les spécificités du circuit, un tracé particulier et en altitude. Et puis ensuite, Séraphin nous expliquera comment Aston Martin a dépassé son budget cap et ce que ça pourrait engendrer pour l'écurie. Et puis on finira comme d'habitude avec le point sur les Français et les pronos de nos ingénieurs. Voilà, le tour de chauffe du débrief du Grand Prix de Mexico est terminé. Les gommes sont à température. Éteignez les feux, c'est parti. Bon alors les amis, on a passé l'année à parler de McLaren qui gagnera entre Piastri, Norris, Norris, Piastri. Et puis là, on a un homme qui arrive de nulle part et qui est en train de rendre fou tout l'écosystème de la Formule 1, puisqu'il n'est pas loin de faire quelque chose qui est quasiment du jamais vu. C'est quand même l'attraction première de cette fin de saison. Arnaud, Verstappen, on en parlait, on y croit de plus en plus. Toi, c'est quoi ton sentiment sur le sujet ?
J'ai envie d'y croire parce que j'ai envie de vibrer pour les 5 derniers Grands Prix et les 2 courses sprint qui restent au Brésil et au Qatar. Parce qu'on a vu que c'était important de gagner une course sprint avec Max le week-end dernier à Austin. On a envie d'y croire. Ce qui, et on le souligne d'ailleurs depuis plusieurs semaines, c'est la façon dont Verstappen et Red Bull sont rentrés dans la tête de McLaren. On voit, alors là, il y a eu la polémique du duct tape, enfin la bande adhésive, c'est-à-dire qu'à Austin, les mécanos de McLaren ont mis, en plus du tracé sur la piste pour le départ, une petite bandelette sur le côté à Lando Norris pour dire « Bon, c'est là que tu dois bien te mettre ». Je trouve ça, entre guillemets, un peu ridicule qu'il ait besoin de ça pour quand même se mettre en bonne position, sachant que voilà, c'est jaune, tu vois, c'est bien marqué, le marquage au sol sur la ligne.
En plus, il ne l'a même pas utilisé, il a déclaré qu'il avait même pas, et ça ne l'avait même pas aidé sur ce week-end. Donc
Et donc, un ingénieur, un mécano de Red Bull, au moment d'évacuer la grille, ils ont été sanctionnés de 50 000 $ d'amende, a voulu retirer cette bandelette. Sauf visiblement, c'était bien costaud. Et donc, ça prouve par cet exemple tout le jeu de Red Bull de leur faire péter un plomb. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire petit à petit. Après, il faut pas oublier que Max Verstappen reste sur un fil. Il a 40 points de retard. On sait qu'à chaque Grand Prix, il doit réduire cet écart. Si on reste encore à 40 points au lendemain du Grand Prix du Mexique, on va un petit peu moins y croire. La balle reste quand même dans le clan de McLaren. Mais c'est la force, c'est qu'on a l'impression que c'est Red Bull qu'elle écarte en main.
Ouais, c'est ça. On a l'impression vraiment qu'à McLaren, on a peur de tout et on est en train de... Même de son ombre, on est en train de se perdre, de prendre toutes les mauvaises décisions. Un petit peu, pour toi, Séraphin, ton avis sur cette remontée folle de Max ?
Ah bah c'est ça qui est beau dans le sport finalement, c'est qu'on peut vivre des émotions comme ça. Il y a quelques courses, on n'aurait pas mis Max Verstappen à pouvoir vraiment être un potentiel 5e champion du monde s'il le fait. Et ça s'est complètement inversé. Et il y a encore quelques courses, encore une fois, mais personne n'y croyait parce que c'était la dynamique de McLaren. La voiture restait compétitive et vraiment, même en qualification, elle avait quelque chose en plus. Mais là, depuis quelques courses, on l'a dit, vous l'avez d'ailleurs dit dans le débrief, ça s'est inversé. Il est dans ce qu'il fait de mieux, Max Verstappen, dans son pilotage parfait, dans une voiture beaucoup plus équilibrée, avec Laurent Mekies qui est arrivé, beaucoup de changements. On voit d'ailleurs que Yuki, ça va mieux avec la voiture. Et donc, moi, j'y crois aussi totalement. Au vu de ce qui est fait et de l'écart qu'il y a entre les McLaren, et ça va être encore difficile selon les circuits de mettre vraiment une écurie au-dessus de l'autre, c'est magnifique. C'est ce qu'il peut faire, c'est juste beau. Voilà. Et il a envie, évidemment, de mettre McLaren loin derrière et de leur faire un coup douce comme ça, parce que s'il fait ça, c'est magnifique.
Et ce qui ressort un petit peu des datas, c'est pas tant que la Red Bull aujourd'hui au-dessus de la McLaren, elle est revenue à niveau. Je ne sais plus quel team principal a dit ça, je crois que c'est Toto Wolff, en disant non, non, mais en fait, c'est juste qu'il n'y a plus d'écart entre McLaren et la Red Bull. Donc, on voit finalement les qualités pures de pilote et on sait que si Piastri et Norris sont d'excellents pilotes, Max Verstappen est l'un des meilleurs pilotes de l'histoire. Et s'il fait un cinquième titre d'affilée, on va évidemment penser à Schumacher entre 2000 et 2004 avec Ferrari, où il avait globalement une voiture ultra dominatrice sur 3 voire 4 des 5 titres. Et donc, on attend de voir Max Verstappen. Le Mexique, il aime bien. Alors, il n'a pas gagné l'année dernière, c'était Carlos Sainz qui avait pris la pole. Je regardais parce que là, c'était un petit peu le débat. Je crois que c'est George Russell qui a dit, de toute façon, ça ne sert à rien de faire la course. Au premier virage, c'est terminé, on ne peut plus se suivre. L'effet du clean air, de l'air propre, est tellement important là que si tu es premier, eh ben, tu es assuré d'aller à peu près au bout.
Il y a une grande ligne droite quand même, n'oubliez pas. Oui. Il y a 830 mètres du point de la pole position jusqu'au premier virage. Et donc, être premier, ça n'a pas toujours été aussi un avantage.
Non, parce que quand Max Verstappen a gagné là, 2021, 2022, 2023 notamment, il partait troisième, il n'a jamais tout le temps fait la pole. Carlos Sainz l'année dernière, oui. Et d'ailleurs, Verstappen avait été, je crois, avait pris 20 secondes de pénalité.
Ouais, accrochage avec Norris, on se souvient de
sur cet accrochage-là.
Bien sûr.
Mais voilà, celui qui va partir en pole, il y a 800 mètres, mais ça te donne quand même un bon avantage. Hein.
Et bien justement, vous avez donné votre avis sur Max Verstappen. On va tout simplement écouter le premier concerné. Est-ce qu'il pense qu'il peut être champion du monde, Max Verstappen ?
Je ne sais pas, l'écart est encore grand. Tout doit être parfait jusqu'à la fin, c'est ce qu'on va essayer de faire. De notre côté, on n'est pas stressé, on essaye de profiter, de tirer le maximum jusqu'à la fin. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, on pourra être fiers des progrès que nous avons faits. Car tout le monde pensait à un moment donné que ce serait un championnat facile pour McLaren. Et au moins, ce n'est pas le cas. On va faire tout ce qui est en notre pouvoir.
Encore des propos qui confirment ce que vous disiez, messieurs, c'est-à-dire que du côté de chez Red Bull, on joue la carte du « nous, de toute façon, on était nulle part, on revient, donc on n'a pas de pression, on y va ». Et on sait que voilà, ce qu'il vient de dire là, certes, il répond à la question, mais en fait, maintenant, toutes ces sorties presse, c'est des messages téléguidés vers l'écurie orange pour les déstabiliser. Et il le dit à la fin, ouais, nous on est contents parce que on embête McLaren en fait. McLaren devait avoir un championnat facile et nous on vient tout foutre en l'air. Donc il y a aussi vraiment cette volonté de déstabiliser l'adversaire et de rentrer dans sa tête, comme tu le disais, Arnaud.
Oui, et on sent aussi le côté plus calme de Red Bull. On loue le changement qui est quand même peut-être le tournant de la saison, le départ de Christian Horner, l'arrivée de Laurent Mekies. Tu as parlé, Séraphin, d'un Yuki Tsunoda un peu plus relancé, qui a commencé aussi à scorer quelques points. Et ils en ont besoin pour ce champion du monde des constructeurs. On sait que McLaren, mais chaque place, est-ce qu'on en parle un petit peu d'Alpine, où il y a eu quelques déclarations en disant que la dernière place, une place, c'est des millions d'euros. Et donc, c'est important aussi pour les écuries, pour cette économie-là, d'aller grappiller ces places au classement des constructeurs. Maintenant, la question, ça reste McLaren. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Moi, j'ai une théorie. Alors déjà, je jubile un petit peu. J'avais dit, je ne sais plus, je crois après le Japon, que j'avais une illumination que Max Verstappen serait champion du monde. Mm. Bon, je me suis un peu tué ces derniers mois.
mais là, tu le rappelles bien.
Écoute, je commence à le rappeler. Non, mais est-ce qu'ils n'attendent pas que Lando Norris soit devant Piastri au championnat du monde des pilotes pour dire « Ouais, on est à 3 courses de la fin, on va prioriser Norris s'il est devant ». Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression, et beaucoup d'articles et beaucoup de commentateurs se souviennent de 2007. On est chez McLaren, le patron c'est Ron Dennis, qui a déjà gagné avec Mika Häkkinen, qui avait eu des line-up de pilotes formidables, Häkkinen, Coulthard, pour ne pas les nommer. Et entre Alonso et ce jeune pilote promis un destin incroyable, Lewis Hamilton, ils avaient un peu plus soutenu Lewis Hamilton que Fernando Alonso, double champion du monde à l'époque. Et tout le monde se dit, oui, on ne veut pas faire comme 2007. Alors, beaucoup de choses ont changé chez McLaren depuis.
Des voitures, déjà.
C'est ce que j'allais dire. Je préférais quand même quand c'était des vraies flèches d'argent, comme on disait. Parce que le papaya... c'était belle, elle sortait.
Chromé, rouge.
Mercedes a un peu repris ce ton un peu noir, sombre. Tu sais, ça fait un peu un personnage de Batman. Moi, j'aime bien quand tu les vois sortir avant la fin de la Q3 à l'époque. Donc, que va faire McLaren ? Moi, j'ai l'impression qu'ils ont envie que ça soit Norris. On le dit depuis un moment. Pilote britannique, écolier britannique.
On le sent, effectivement. Et puis, ça fait quand même depuis 2019, je crois que Norris, il est dans l'écurie. Donc, on sent que ils ont ce pilote, voilà, il a évolué avec McLaren dans des moments difficiles. On se souvient, il y a deux ans, en 2023, où ils étaient nulle part. Et là, ils sont double champion du monde constructeur. Et peut-être d'aller chercher un vrai titre pilote. Donc, moi aussi, j'ai du mal à. Je comprends ton point de vue vis-à-vis du fait qu'il pourrait laisser Lando Norris si, effectivement, il parvient à passer de Yann Piastri au classement. Et ce qui peut vraiment se passer, parce que, quand même, depuis son abandon à Zandvoort, à chaque course, Lando Norris, il a repris des points sur Oscar Piastri, qui, lui, est en grande difficulté. Donc, il a fait quand même le job. Il n'y a vraiment pas beaucoup de points d'écart. Je crois qu'il y a 14 points d'écart, si je ne dis pas de bêtises, oui. entre Piastri à la tête et Lando Norris. Donc, il a réussi à recombler une partie de son retard. Il en reste encore. Mais au vu de la dynamique de ce qu'il propose sur les dernières courses, on sent que Lando, là, il fait parler son expérience quand même et il ne craque pas. Donc, ouais, il va falloir voir. En revanche, les consignes pourraient être différentes. Si vraiment Verstappen vient être à peut-être 10-20 points, on va leur dire, bon, les gars, là, à un moment donné, faut peut-être que vraiment on joue vraiment le clean entre les deux et qu'on évite de faire le con parce que là, derrière, Verstappen,
on va
vraiment en train de nous mettre.
On va parler des consignes juste après, mais sur la théorie d'Arnaud, il faut pour ta théorie que Norris dépasse Piastri du coup. Donc c'est quelque chose qui pourrait ne jamais arriver. Et donc là, ça les mettrait dans une situation d'attente, donc qui ne ferait rien. Et à la fin, ça se finirait sûrement très mal.
Oui, mais l'écart se réduit de Grand Prix en Grand Prix. Donc, à force d'attendre et de faire un peu la politique de l'autruche chez Zak Brown ou André Stella, après, ils ne sont peut-être pas d'accord entre eux aussi. Hein, parce que, pareil, j'ai revu des souvenirs de 2007. Il n'y avait pas forcément un accord entre les différents ingénieurs de l'époque et le team principal Ron Dennis sur qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là. Est-ce qu'ils sont tous sur la même longueur d'onde ? Je me pose quand même la question. Et de toute façon, on sent bien que le doute profite à Red Bull. De voir cette écurie McLaren qui semblait si forte, on vous promet tout, vous allez gagner. Heureusement que Piastri et Norris vont offrir une lutte pour le titre de champion du monde. C'est encore le cas. Mais on a plus l'impression que c'est Verstappen contre McLaren. Et à force de se manger un peu entre soi, les McLaren, on arrive à cette situation-là. Faisons un petit peu de mathématiques, moi j'aime bien. Il y a 40 points d'écart entre Max Verstappen et Oscar Piastri. Il reste 5 Grands Prix. Si vous terminez premier, vous prenez 7 points d'avance minimum sur le deuxième, 25, 18 points. Donc, 5 x 7.
Ah, 5 x 7, ça ferait 35. Pas 35 ça ?
Ça fait 35. Donc presque, si Max Verstappen gagne tout... Il fait presque tout son écart, à condition que Piastri termine à chaque fois deuxième. Et pas oublier les courses sprint,
ouais, il y en a deux. Les 33 points, effectivement les 8 points en plus.
Voilà, qu'il y aura au Brésil et au Qatar. Donc si Max continue, alors ça serait quand même un peu présomptueux de dire qu'il va gagner les 5 prochaines courses. Même si, à l'impossible nul n'est tenu, vu le bonhomme,
ouais.
Ce qui serait, imagine,
on l'a vu
incroyable.
Les années précédentes, il en a gagné combien, 9 ou 10 de suite. Enfin, il y a des moments où quand il avait la meilleure voiture, il sait tout gagner. Donc c'est quelque chose d'imaginable. Mais
imagine,
finalement.
Max Verstappen est en tête à Yas Marina en Arabie Saoudite.
Rappelez Michael Masi tout de suite.
Attends. Je te fais mon scénario science-fiction. Il est en tête et là... Franco Colapinto provoque un drapeau rouge, on change les gommes et Lando Norris qui double dans le dernier tour. Max Verstappen, ce serait incroyable ce pied de nez de l'histoire.
Là, ça serait
ou l'inverse.
Incroyable.
Alors, j'ai pris Franco Colapinto par hasard.
Et pour saluer Nico. Bon les amis, juste avant de partir complètement justement sur l'évolution des consignes chez McLaren, comment ça se passe, on va juste écouter le leader, parce qu'il est toujours leader finalement, le leader sur cette remontée de Max Verstappen et la pression que le Hollandais met sur lui finalement.
Probablement, mais c'est le cas de tout le monde. La forme qu'il a montrée depuis Monza a été surprenante. On avait eu des bribes de cette performance à certains moments, plus tôt dans la saison, mais il y a eu aussi quelques passages à vide. Le fait qu'il soit aussi consistant est une surprise. Nous savons qu'ils continuent de tester des choses sur leur voiture pour l'améliorer, donc d'une certaine façon, ce n'est pas vraiment une énorme surprise non plus. Il est revenu plus rapidement que ce que je pensais.
Bon, il dit pas grand-chose, hein. Il dit pas grand-chose.
Le match est revenu plus vite que
voilà.
Prévu.
Il est revenu plus vite que prévu. Il joue au gars à qui ça pose pas trop de problèmes. Alors que tu sens bien dans le ton, dans l'assurance et même dans son pilotage qu'il doit quand même penser quasiment plus qu'à ça aujourd'hui et à cette remontée. Mais justement, vous en parliez, Piastri, Norris, c'est deux pilotes, 1 et 2 au championnat, 14 points d'écart et des patrons qui n'ont jamais su décider, en fait. Zak Brown a dit récemment « Choisir un pilote sera guidé par les mathématiques », que t'aimes tant, Arnaud. Mm-hmm. « Nous ne fermerons pas la porte à cette idée, à moins que les mathématiques nous le permettent. » Enfin bref, on voit bien qu'ils ne savent pas, ils ne veulent pas, ils n'y arrivent pas. Et à un moment...
Tiens, la théorie Norris, hein.
Ah oui.
Parce que là, ils peuvent trancher.
Mais c'est ça, c'est non. Ça. Séraphin, il faut faire un choix, non ? Il est temps, là, grand temps même.
Moi, je ne dirais pas de faire un choix, parce qu'il faut les laisser aller chercher leur propre destin, leur propre titre. C'est plus certaines règles entre eux pour éviter de se retrouver vers une situation, par exemple, comme Austin avec la course sprint, où visiblement on met la faute sur personne, même si Piastri il a plus pris de ce qu'on a pu lire une petite part de responsabilité, mais c'est de se dire voilà, on joue pas qu'à deux, et par exemple cette Austin, ils se sont vus un peu trop qu'à deux et en fait ils ont pas assez laissé la place pour les autres. Donc c'est éviter en fait une situation où on marque zéro point, de que les deux pour leur bien à eux en fait, pour leur propre championnat.
Mais reviens au Grand Prix d'avant. À Singapour, Norris, enfin, on a sanctionné Norris après en interne, ouais. Mais c'est quand même lui qui donne le coup de roue à Piastri et il est à deux doigts quand même de l'envoyer dans le mur. Alors il dit oui, parce que j'étais tassé, il y avait Russell devant, il avait un petit peu de survirage, il essaie de rectifier à droite, mais là, pardon, Norris avait commis une faute et bon, j'avais compris pourquoi Piastri fulminait durant tout le Grand Prix, vous laissez ça, c'est pas normal, là il y a quand même une erreur. Et moi, je pense que Piastri commence à se dire qu'on ne va pas le favoriser. Et que...
Oui, c'est ce qu'il sent. Ouais.
Et c'est pour ça, du coup, sur ma théorie, entre guillemets, c'est parce que je sens que Norris, on le sanctionne moins que Piastri. Mmh. Là, on a dit, oui, Piastri à Austin. Bon, c'est quand même Hülkenberg qui envoie un petit peu tout le monde. Effectivement, tu as raison, Séraphin, le virage est suffisamment large. Il veut décroiser, sauf que tout le monde plonge un peu à l'intérieur. Et malheureusement, là, pour le coup, je ne vois pas une énorme faute des McLaren, non. Si ce n'est d'avoir été un peu trop gourmand sur la façon de négocier ce premier virage. Mais c'est quand même Hülkenberg qui tape tout le monde. Et donc, moi, Singapour, ça m'a vraiment fait douter. Je dis, quand même pas normal. Alors, OK, il est peut-être... Lando Norris est peut-être un peu coincé, mais c'est quand même lui qui donne le coup de roue à Piastri, quoi.
Oui, mais est-ce que Piastri, comme on le dit, il est toujours en tête. Est-ce que Piastri, finalement, il se pollue pas trop son pilotage, son état d'esprit, sa motivation avec toutes ces histoires? Parce que tu as 15 points d'avance. Si tu gagnes tout, ou si tu es toujours devant Norris, tu vas l'avoir ton championnat. Donc, est-ce qu'il n'est pas en train justement de le perdre dans la tête ?
Si, on l'a vu clairement avec des erreurs en fait. Depuis Bakou, il fait deux erreurs, même trois erreurs, parce qu'il y a la qualification qui était quand même chaotique avec le vent qui a tourné, il se crash. Et après, il y a ce départ qui loupe, puis le crash au deuxième virage. Donc à partir de là, on a senti que il a fait une erreur et il fallait rebondir au Grand Prix suivant. Et on voit que depuis, effectivement, il y a eu Singapour. Donc effectivement, lui, sa position, c'est Lando. Et après, il y a le Grand Prix suivant. Et là, ce qui s'est passé le week-end dernier à Austin, on a vu un Oscar Piastri qui n'avait pas de rythme, tout simplement. Au-delà de
faire un zéro,
pas bon en qualification, loin, et en rythme de course, il était dans le rythme de Lewis Hamilton dans la Ferrari, il était loin de son coéquipier. Donc il a apparemment, de ce qu'on comprend, il a toujours eu du mal sur ce circuit, notamment avec le freinage. Donc McLaren a même fait des essais, mais avec une ancienne monoplace, spécialement sur ce tracé, pour entraîner justement Piastri. Mais on sent qu'en fait, il est en train de craquer et il n'arrive pas à se ressaisir. Et en fait, je pense qu'il lui faut une course référence là de nouveau où il fait un gros résultat pour peut-être reprendre cette confiance qu'il avait, parce que il nous l'a prouvé jusqu'aux trois quarts de la saison qu'il était un très très bon pilote et il reste un très très bon pilote. Mais là, ce qui fait et l'accumulation d'erreurs et d'un manque de rythme, c'est en train de le il patauge.
Et tu vois, finalement, on se disait et Jean-Luc le soulignait, on sent le sang-froid chez Piastri, mais par rapport aux autres pilotes, là, comme le danger vient presque de l'intérieur, c'est totalement différent à gérer.
Bien sûr.
Et c'est peut-être pour ça que ça le ronge. Et Bakou, effectivement, les erreurs gravissime pour lui de se planter en qualif et surtout dans le premier tour. Elle coûte très cher et je pense que ça continue de ruminer parce que le déclic est peut-être là où Norris est revenu et Verstappen a commencé aussi un peu à revenir.
Sur le moment, il s'est dit bon bah mon coéquipier va revenir sur moi, sauf que il y a trois courses, Verstappen n'était pas aussi prêt. Ce qu'il a fait, c'est assez fou. Donc là, en plus, il se dit maintenant il y a Verstappen aussi que je dois méfier. Donc psychologiquement, ça devient vraiment dur. Et Piastri, il a pas encore aussi clairement cette expérience qu'a un pilote qui a roulé sa troisième saison. Voilà, il a besoin aussi encore de maturité, de vrai pilote et d'aller comme là, d'aller jouer un championnat. C'est quand même tout nouveau pour lui. Donc c'est dans ces moments-là où on voit les talents d'un vrai champion.
Et comment, moi je me demande comment Piastri se sent dans sa monoplace quand il sait que sur le muret des stands, c'est soit moite-moite, c'est pas tranché, tu sens pas un soutien comme un pilote leader au classement l'est. Je pense que si, c'est pas évident. Alors que Max Verstappen, plus rien que tout Red Bull derrière, les usines, les boissons, coactionneur thaïlandais.
Qu'il soit premier ou dernier
Yuki,
d'ailleurs.
Même Yuki, il a déclaré, j'ai lu qu'il était prêt à se mettre au service de Verstappen.
Oh, c'est sympa, franchement.
pour aider Red Bull.
Tu sais ce que tu fais, tu fais un strike au premier virage sur les deux papayas et puis voilà.
Ouais, c'est une solution. Et alors,
Flavio approuve.
Oui, Flavio approuve. Justement, tu parlais de théorie fiction tout à l'heure. Moi, j'en ai une pour vous. On part du principe que Max Verstappen devient champion du monde pour la cinquième fois. Donc là,
est-il le plus grand
à la fin de la saison? Non. Sur ça, on attendra. On a tout l'hiver pour la faire. Mais sur McLaren, la faute à qui si Max Verstappen est champion chez McLaren? Pour vous, qui sera le premier responsable chez les papayes en cas de non-titre pilote?
Zac Brown,
l'écurie est responsable aussi de...
C'est le patron, c'est à lui de trancher. C'est lui le big boss.
Moi, je pense aussi. Moi, je pense que Zac Brown, je mettrais Stella avec peut-être.
Oui, mais c'est qui est au-dessus board, Mais alors, imagine, parce qu'on va plus loin. On aime bien faire de la science-fiction. Mais regarde, si Verstappen est champion du monde, est-ce que tu gardes Zac Brown à la tête de cette équipe?
Ouais.
Un tel camouflet. Non, mais ça serait pas... Tu veux repartir de la même façon, parce que ça serait inédit. Imagine, ils n'ont pas un pilote champion du monde.
Alors, ils ont deux titres d'affilée constructeurs.
Oui.
C'est pareil, c'est Zac Brown, c'est aussi celui qui les ramène du GP2 Engine à jouer le championnat. Mais après, c'est très épineux comme
question.
Après,
je ne vois pas, avec 2026 qui arrive, je n'aurais pas l'intérêt de
foutre le bazar maintenant.
Je peux comprendre, effectivement, il y a une responsabilité derrière si on loupe le titre pilote pour McLaren et ils vont s'en vouloir, mais vu de ce qui se passe. Et puis, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que vous avez peut-être, pour ceux qui ne l'ont pas vu passer, Oscar Piastri a déclaré en conférence de presse, justement, en avant de ce Grand Prix du Mexique, que les répercussions pour Lando Norris, donc suite notamment à l'incident de Singapour, ils sont maintenant supprimés. Donc, c'est-à-dire que, de ce qu'on comprenait, c'était Oscar Piastri qui avait un avantage lors de la sortie dans les stands pour être devant et avoir du clean air et éviter, on va dire, un incident ou autre. Et Oscar Piastri a déclaré que ça a été réfléchi. Donc, je sais pas, je pense que ça a été fait avec l'équipe et les pilotes. Mais du coup, on annule cette règle. En fait, moi, je ne comprends plus rien. C'est-à-dire que, on l'a dit, McLaren, en fait, ils se prennent les pieds dans le tapis, ils mettent des règles en place. À un moment donné, on voit que il y a ces règles d'arrêt au stand où c'était n'importe quoi à Monza et où on veut une équité parfaite. Et du coup, être trop parfait, en fait, ça marche pas et on se prend les pieds dans le tapis. Donc là, on revient à une situation où ils disent que les deux sont sur une ardoise blanche et les deux sont.
Vous savez avec qui j'aimerais bien discuter?
Je sais pas, Julia Roberts.
Ça pourrait. Mark Webber.
Ah.
Manager de Oscar Piastri.
Ouais.
J'aimerais savoir.
Et lui aussi, pilote qui a mal vécu parfois Multi-21, on sait qu'il était. C'était très clair, contrairement aux deux actuels. Mais c'est clair qu'ils ont en tout cas, il doit lui donner de bons conseils. Il doit lui dire je suis passé par là, Oscar.
Respecte pas les consignes.
Écoute-moi et surtout n'écoute pas.
Mais non,
pas
de savoir, parce que lui voit très bien avec son expérience. Ce qui est peut-être en train de se tramer et de voir son poulain Imagine, parce qu'il y a peut-être, il y a quand même des notions de désavantage de Piastri, de l'écurie dans son traitement de Piastri par rapport à Norris. Les contrats, bon, 2028, visiblement, il y a quand même beaucoup de clauses dans les contrats de Piastri. Hein. Si on s'en souvient de son arrivée chez McLaren, on n'est pas aussi près d'un Big Bang où 2027, il pourrait partir un an avant la fin de son contrat, des choses comme ça.
Ça parce que tu n'oublies pas. Hein. Hein, ça peut être probable. Une fois que tu as la nouvelle réglementation, tu vas connaître un peu, tu vas comprendre là où il faut aller si tu veux avoir une chance. Et s'il se sent toujours... on va dire, on a bien compris que...
Alors, il est sur le marché. Voilà. Qui peut y aller? Tu le mets à la place de Russell? Tu le mets chez Ferrari?
Ah, oui, moi, il y a Charles Leclerc aussi. Je pense beaucoup entendu, c'est Charles Leclerc, il s'impatiente avec Ferrari et on sait qu'il a commencé à aller voir ce qui se passe dans les autres
écuries. Mais est-ce qu'il n'aime pas trop Ferrari?
Ouais, moi, je pense que
mais
oui.
Si, non, mais il est attaché, mais je pense qu'il va voir ce qui se passe l'année prochaine et peut-être même l'année d'après.
Comme tout le monde. Hein.
Mais je pense aussi que Charles Leclerc, à un moment donné, si au bout de 2-3 ans chez Ferrari, ça fera 10 ans à un moment donné, je ne sais plus grand-chose. Il faudra qu'il fasse une situation, faudra qu'il évolue. Mmh. Et on sait qu'aussi Aston Martin, ça peut évoluer. Là, on parle de Stroll qui apparemment aurait décidé, mais il n'a pas fait d'arrêter sa carrière, sa retraite l'année dernière. Je ne sais pas si vous avez passé cette info. Donc, si ça bouge aussi du côté d'Aston Martin et on voit que l'écurie est en train de grossir, moi je pense dans un an ou deux, ça peut complètement bouleverser le marché. Et si Red Bull et si Verstappen n'a pas la voiture, on sait évidemment qu'il sera le premier aussi à taper à la porte et à être reçu par tout le monde. Donc, ça va être intéressant justement de voir.
Oui, je pense que s'il tape à la porte, Max, on devrait lui ouvrir, je pense, assez facilement.
Tapis rouge.
Bon les amis, maintenant on va se concentrer sur le week-end de manière plus technique, puisque vous êtes dans le paddock RMC, on va au fond du fond. On va parler des spécificités de ce circuit, parce qu'il est quand même assez particulier, déjà par son altitude, et aussi par son stadium, qui est toujours un moment assez incroyable, où vraiment la piste passe, alors je ne sais plus, c'était un ancien stade de baseball ou de football, enfin, en tout cas c'était vraiment un stade et dans lequel on passe au milieu, c'est hyper sympa. Toi Séraphin, qu'est-ce que tu penses de ce circuit? Est-ce que tu as des choses à relever sur des virages, sur les spécificités de ce circuit?
Alors tu l'as dit, la particularité principale c'est son altitude, hein, quand même. On est à 2200 mètres, donc c'est assez inédit. Il y a Interlagos qui est assez haut mais pas autant. Conséquence de cette altitude, c'est qu'on a 20% de pression atmosphérique en moins, ce qui fait que les voitures sont plus rapides en ligne droite, mais il faut aussi compenser, donc on a des voitures avec beaucoup plus d'appui sur les ailerons avant, sur les ailerons arrière, et aussi une difficulté pour refroidir la voiture. On pense au moteur, aux freins. Donc c'est quand même une particularité de ce tracé. Non, moi je trouve que c'est un tracé, ça va faire 10 ans qu'il est revenu au calendrier, c'était en 2015. Il y avait eu une période de disette et voilà, c'est un tracé historique. Un petit tracé, il y a quand même, tout à l'heure j'en parlais, une grosse première ligne droite au moment du départ. Donc c'est toujours... toujours intéressant, il y a toujours eu des faits importants au premier virage. Je me souviens, justement, par exemple, en 2023, l'accrochage entre Pérez et Charles Leclerc, avec la voiture de Pérez qui décolle et DNF. Donc, c'est intéressant. Moi, j'avais relevé aussi que ce week-end, Pirelli a décidé de faire sauter un train de pneumatique. Donc, c'est-à-dire que le pneu dur sera le C2, le médium le C4 et le pneu rouge le C5. Ils ont fait ça le week-end dernier. On voit que finalement, personne n'a utilisé le pneu dur. Il n'a pas été du tout efficace. Mais du coup, je vais voir un peu. J'ai hâte de voir en essai libre si des pilotes voient un peu leur rythme et s'il y en a certains qui se chauffent. Ça peut, ils font ça justement pour essayer qu'on ait une stratégie un peu différente et éviter que les pilotes partent en gomme, par exemple, médium soft, qui était plus ou moins privilégié. Je trouve que c'est un tracé, tu l'as dit, j'aime beaucoup ce troisième secteur qui est très lent, avec effectivement l'entrée dans le stadium où il faut une bonne motricité, il faut effectivement être, on a la voiture qui est beaucoup moins d'appui, donc c'est un circuit qui est glissant aussi, hein, des fois ça peut glisser. Donc je trouve que c'est un tracé qui maintenant est devenu un peu un classique. On peut avoir des fois des bonnes courses, des fois des moins bonnes, mais en fonction de la qualification qui est extrêmement importante cette année, ça peut nous faire une bonne course. Vu que je suis assez hypé par cette fin de saison avec la lutte, j'attends avec impatience.
Ça va être intéressant de savoir si on va tenter le pari des softs au début pour la traction, pour cette fameuse longue ligne droite. On sait que Max a tenté Où c'est qu'il a tenté, c'est Singapour, non? Où c'est qu'il a tenté des softs au départ?
Ouais, cette année, il l'a déjà fait.
Ouais, ça n'avait pas payé, je crois, à Singapour. Puis bon, bah, impossible de récupérer Russell derrière. Donc non, évidemment, le contexte fait que là, chaque Grand Prix va être intéressant du moment que McLaren assomme pas, parce qu'il suffirait d'une course totalement ratée de Max Verstappen pour presque mettre fin au suspense entre guillemets. Oui. Et d'ailleurs, dans le son qu'on a entendu de Max Verstappen, c'est un petit peu ça. C'est que voilà, on reste sur le fil. Alors c'est vrai que le fil s'est un petit peu plus épaissi après Austin, mais ça reste quand même avantage McLaren avec ses 40 points d'avance et 5 grands prix.
C'est aussi pour ça, c'est aussi ça qui crée la chose un peu marrante dans cette situation.
C'est le alors peut-être. Hein.
C'est le alors peut-être, mais c'est aussi de voilà, c'est cette espèce de. On sent que chez McLaren, plus rien ne va, alors qu'il pourrait aussi souffler un bon coup et se dire « Attendez, finalement, restons sereins et continuons à marquer des points et on en a 40 d'avance, ça va le faire. » Mais on sent que...
Et vous n'avez pas le sentiment que tout le monde a envie de les voir perdre.
j'ai l'impression que ça
hormis les fans de McLaren,
ça ferait plaisir un peu à beaucoup de gens.
On les salue s'ils nous écoutent, mais même au niveau du paddock, de se dire « Toi, t'entends un peu les autres équipes principales. »
Là, ça commence quand même à réagir un peu partout. On leur pose beaucoup de questions, justement, sur « C'est normal ».
Ouais. De dire ah oui Max c'est exceptionnel
et alors ça fait partie des circuits déjà où normalement tu peux pas vraiment tenir tes pneus tout le temps. Il faut un peu choisir est-ce que je les bouffe au début, est-ce que j'en garde pour la fin, puisque comme le disait Séraphin, ce dernier secteur très lent, sorti de stadium, t'as une espèce de double virage tout en appui qui peut faire très très mal aux gommes, donc ça c'est intéressant. Et puis cette longue ligne droite aussi, c'est un peu comme la Russie, ces fameux circuits où tu te dis, est-ce que troisième, c'est pas presque aussi bien que premier, tu vois, la ligne droite est tellement longue.
Ouais. Puis si tu pars en soft, comme tu l'as dit, ça peut aussi faire la différence.
Donc c'est ça. En revanche, tu en as parlé très rapidement au début. Ce qui est peut-être un peu compliqué dans ce circuit, c'est que comme le disait Russell, c'est un circuit et une fois le premier virage passé. Il n'y a plus grand-chose qui se passe.
L'air frais, tu vois, tu as quand même t'as des gros freinages, le secteur 3 lent. On a vu que, je regarde sur le deuxième secteur où tu as des petits enchaînements de S, on avait vu quand même que c'était très dur de suivre.
Ouais,
et Max reprenait des dixièmes et des dixièmes à chaque fois à Austin dans ces secteurs assez rapides et assez sinueux et ces virages rapides. Donc, tu auras quand même un bon avantage de partir en pôle. Mmh. Là, pour le coup, le côté sale va peut-être te faire mal, hein, si tu es deuxième, quatrième. La qualif va quand même être très, très, très importante. De toute façon, on le voit que c'est sur cette fin de réglementation. Heureusement qu'on a ce suspense-là, parce qu'on voit qu'on arrive clairement à bout de souffle de ces dispositions techniques sur ces voitures-là.
Hein.
Les courses, moi, j'ai le sentiment quand même qu'il y a des moments où c'est long et où il ne se passe pas énormément de choses, parce que on sent que les pilotes font vraiment un écart important en fait, pour essayer une manœuvre de dépassement. Il y a eu quand même une belle bataille le week-end dernier entre Norris et Charles Leclerc. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment qu'il y ait une différence importante pour que le pilote puisse vraiment faire la différence.
Mais George Russell, encore lui, le disait justement que là, en ces derniers temps, on commence à avoir des courses, c'est de la procession. Quoi, et que il faudrait pouvoir justement retourner un peu plus aux limites de sa voiture pour que justement on puisse avoir de la course. C'est ça qu'on veut, de la course.
Une petite pensée pour Checo. Il revient l'année prochaine.
Il va revenir chez Cadillac avec en coéquipier le plus grand pilote de l'histoire, Valtteri Bottas.
Et il a le record de vitesse.
Il a tous les records. Arrêtez un peu. Et qu'est-ce qu'on pense de cette troisième zone DRS qui a été ajoutée il y a quoi maintenant, 3 ans déjà peut-être. Tu vois, c'est juste avant justement l'entrée dans le stadium. Ouais. Elle est un peu courte, non?
Après, n'oubliez pas que le DRS a moins d'effet justement à cause de l'altitude.
Ouais. Et encore plus justement, elle est trop courte parce que justement, il ne marche pas ce DRS.
Donc ça joue. Par contre, là où c'est pas mal, c'est que les deux premières zones au DRS, il y a une zone d'activation. C'est-à-dire que si vous avez le DRS sur la ligne droite de départ-arrivée, vous l'avez aussi pour la deuxième. Donc là, ça peut effectivement...
Parce qu'à Bahreïn aussi, t'as un truc comme ça, ou je sais plus.
Tu as à Bahreïn, en effet, l'enchaînement des deux zones après le T1, t'as un petit S là, tu fais la première et ensuite l'autre. Mais qu'est-ce que je disais sur ce circuit? Oui, la zone de détection, la première, celle qui te valide les deux premières zones de DRS, elles se trouvent juste après le stadium,
près du pont.
Entre la fin du stadium et sous le pont là. c'est là qu'il faut être à moins de une seconde.
Il faut une bonne motricité, il faut bien ressortir ce virage, c'est vraiment...
Et ce virage, il est interminable, c'est-à-dire que tu es en appui tout le long et tu peux la perdre.
Valtteri Bottas a craché en 2019.
Non, je ne me rappelle pas de ça. Non. Bon, allez, on va parler maintenant de voilà, cette petite actualité. Le mauvais élève de la semaine serait Aston Martin, c'est Raffin, puisque Aston Martin a avoué eux-mêmes, au moins c'est plus simple, avoir dépassé le budget de cap. Raconte-nous ça.
Alors, le budget cap, on s'en souvient, hein, ça avait été introduit en 2021 pour limiter effectivement le développement des écuries et d'avoir un budget limité. Et effectivement, il y a Aston Martin qui a déclaré, ils l'ont reconnu, ils ont été honnêtes, d'avoir en fait dépassé. Pour vous expliquer un petit peu, l'écurie, en fait, elle doit déposer son dossier de budget, justement, jusqu'au 31 mars donc de cette année pour le budget de l'année dernière. Voilà comment ça se passe. Et c'est en ce moment, fin octobre, début octobre, que la FIA délivre en fait, le certificat comme quoi l'écurie a bien respecté son budget de cap. Et en fait, on s'est rendu compte que la FIA a tardé à donner ses résultats pour être sûr que les écuries aient validé le budget de cap. Et c'est Aston Martin qui a reconnu, en fait, non, on a eu un problème. Et en fait, l'histoire, c'est qu'ils ont rendu trop tard en fait, leur résultat, donc, qui était au 31 mars. Et alors, pour avoir un peu creusé le sujet, en fait, c'est carrément l'audit qui, justement, fait ce budget de cap pour Aston Martin qui a, en fait, signalé qu'en fait, il manquait une signature. Ça paraît pas bête, mais c'est une erreur humaine. Qu'il manquait une signature sur un des documents. Apparemment, une personne qui était malade, donc c'est pour vous dire à quel point. Et du coup, c'est juste qu'il était prêt, en fait, le rapport complet de Aston Martin. Mais du coup, ils l'ont rendu trop tard, donc après cette date du 31 mars. Et ce qui se passe, c'est que du coup, la FIA et Aston Martin se sont mis d'accord. Et donc, la pénalité, visiblement, devrait être très, très faible. Hein. On n'est pas sur une situation comme Red Bull, par exemple, en 2022, où ils avaient dépassé sur 2021 et où ils avaient eu 7 millions d'euros, je crois, d'amende et puis 10% de soufflerie. Là, c'est une erreur très bête, apparemment, d'avoir rendu trop tard.
Et c'est Jean-Luc de la Conta, quoi. Voilà.
Ah non, mais c'est un peu ce genre de situation. C'est oh, bah mince, j'ai une signature.
Il y a mon chien qui a mangé la copie, quoi.
Donc, plus de peur que de mal, c'est assez relatif. En revanche, ce qu'on a aussi comme information, c'est qu'il y a une autre écurie qui serait dans une situation où on attend aussi encore leur obtention, justement, pour leur budget de cap de l'année précédente. On ne sait pas actuellement quelle écurie ça concerne. Et quels sont exactement ce qui est reproché à l'écurie. Voilà, c'est assez mineur comme situation.
Oui,
mais c'est sûr que...
ça arrive de temps en temps. Hein. Oui. Il y avait eu Alpineas aussi qui avait connu des petits débordements de budget. Voilà, avec la FIA, on se met d'accord.
Il faut imaginer le bordel que ça doit être quand même.
Le budget de cap, il a quoi, 215 millions, un truc comme ça, je crois, maintenant.
J'ai plus en tête la somme exacte.
200 millions maintenant. Mais...
Et je crois qu'il l'avait rehaussé aussi il y a un an ou deux, avec le plus de Speak and Sprint aussi, genre de situation.
Ouais. Non, mais bon, ça peut arriver. Et c'est pas plus mal si c'est vraiment un enchaînement de, on va dire, presque de la faute à personne, faute à pas de chance, que ça se termine un peu à la table des négociations,
oui,
et qu'on n'en fasse pas tout
en
plat.
Il y a une transparence d'Aston Martin. Effectivement, on reconnaît notre erreur. Voici, ils ont vraiment expliqué la situation.
Et puis là, clairement, on voit bien dans ce que tu nous as raconté qu'il n'y a pas eu d'avantage sportif, quel qu'il soit.
Plutôt la première piste. Hein.
Ça, t'as raison, Arnaud. C'est clair que même s'il y en avait un, ils l'ont très, très bien caché.
Bon, on attend quand même la décision, effectivement, le résultat de cette autre écurie qui, effectivement, aurait aussi eu un dépassement, mais on ne sait pas pour l'instant les affaires à suivre. Hein. Voilà.
Affaires à
Ça
suivre.
Pourrait être qui ?
Hein ?
Ça pourrait être qui, l'autre écurie ?
Bah après, si c'est une erreur administrative,
pas de
sauveur, un peu bête.
Aussi, t'as des équipes qui changent un peu de main, ou je sais pas. Mmh. Oui, bah des erreurs administratives,
après,
ça peut...
Après, c'est l'année dernière, hein, c'est sur le budget de l'année précédente. Ouais. Donc, à voir ce que c'est.
Après, je pense qu'en sanction pour Aston Martin, on peut retirer les points de Lance Stroll. Ou... ouais, 32 points quand même, Lance Stroll.
Eh bah oui, ça doit être pas loin de... Ça, peut-être même plus qu'Alpine.
37 pour Fernando, il n'est pas si loin.
Tu te rends compte, 12 points de plus qu'Alpine. Enfin bref, tiens, en parlant d'Alpine, on va attaquer notre point sur les Français un petit peu. On a vu un week-end... globalement compliqué pour E3 le week-end dernier, puisque celui qui nous sauve la saison nous, les chauvins, on parle Formule 1, c'est quand même Isaac, qui cette saison est le seul à sortir un peu du lot. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à dire sur les deux autres, puisque clairement, ils sont tributaires d'une voiture qui n'est pas au niveau.
Même si, quand tu dis les deux autres...
Ocon, Gasly.
Oui, Le problème d'Ocon, c'est que Berman est bon.
Ouais.
C'est plus, en fait,
c'est ça qui me gêne.
C'est là où on arrive, c'est que justement, on a peut-être l'impression que ça commence à leur taper un peu trop sur le système, puisqu'on voit quand même que Ocon, Gasly sont en train d'être rattrapés par leurs coéquipiers.
Gasly, je suis moins inquiet.
Non, mais Gasly, évidemment,
le projet, on sent lui. Hein, voilà.
Non, mais moi, je parle même pas de projet, de risque, de choses. C'est plus juste, voilà, on sent quand même qu'il y a, peut-être un ras-le-bol chez les deux. Et oui, moi, je mettrais plus leur performance et tu vois, et Berman devant là-dessus. Toi, tu es peut-être plus inquiet, Arnaud.
Gasly, je suis moins inquiet dans le sens où on a compris, et encore avec les récentes déclarations de Flavio Briatore, que allez, 2026, voilà, on sait que beaucoup de choses vont changer. Il n'y aura plus de moteur Renault l'année prochaine, évidemment, dans l'Alpine. Donc voilà, on tourne comme pas mal d'autres écuries qui le disent plus ou moins clairement. On pense à 2026. Le problème chez Haas, c'est que Esteban est dominé par Berman, qui est un super pilote, dans une écurie où il vient d'arriver. Donc le contexte est totalement différent. Pierre Gasly vient de renouveler son engagement sur plusieurs années chez Alpine. Ça fait longtemps qu'il est là. Il est le numéro 1, il est la tête de proue. Alors que bon, on ne sait pas si Colapinto sera là l'année prochaine. C'est encore un point à éclaircir là-dessus. Attends, pour le deuxième banquet.
Nico, il s'est pété le genou. lui dis pas qu'il va perdre son Colapinto, sinon là, elle sera vraiment la pire semaine de son année.
Donc moi, Gasly, c'est différent. Voilà, on est, évidemment une année compliquée pour Alpine et on a acté qu'on passait à autre chose. Mais pour Esteban Ocon, le fait qu'il arrive dans cette écurie A, cette écurie américaine, où en plus il était important de briller à Austin parce que en livret spécial et puis c'était une écurie américaine, moi, c'est différent de se faire taper par son coéquipier dans ce contexte-là. Il restera encore Las Vegas, qui sera, je pense, un moment important pour essayer de briller, notamment devant son coéquipier. Mais voilà, moi, j'ai plus d'inquiétude pour Esteban, qui avait signé 2 ans ou 3, 2, je crois.
Je dirais 2, ouais, mais je ne suis pas sûr. Ouais.
Séraphin, toi, t'en penses quoi?
Esteban,
t'es inquiet aussi?
Un petit peu moins, mais oui, il y a une petite inquiétude récente quand on regarde un peu d'ailleurs le classement. Il y a tellement de courses quand même, il y a tellement de courses que Ocon, il a 28 points pour l'instant et Berman, il a 20 points. La situation, c'est que depuis quelques courses, on sent que Berman est mieux parce qu'il évolue progressivement step by step avec sa voiture. Qu'en qualification aussi, on sent que ça va mieux, même si la Haas, elle se qualifie rarement au-delà de la Q2. Hein. Ça reste moyen. Mais effectivement, Berman, il marque 2 points aux USA, il marque 2 points à Singapour, il en marque 8, c'était en Italie. Et Ocon, lui, la dernière fois qu'il marque, c'était 1 point, c'était aux Pays-Bas. Donc 8 points pour Berman aux Pays-Bas et 1 point pour lui en Italie. Donc ça fait 5 courses qu'il n'a pas marqué de points, Ocon. Donc on sent que là, la dynamique, effectivement, Berman progresse, Ocon stagne. C'est dur de savoir. On sait que la monoplace est quand même très compliquée à comprendre. Hein. Franchement,
ah, bon, Berman, il fait Q3 à Austin.
Il fait Q3 aussi, oui.
Bon, alors que Esteban, c'est un broglio à la fin de la Q1 où beaucoup n'ont pas pu faire leur dernier tour de qualif. Mais
il était génial.
Tu vois, mine de rien, c'est ça. Et ok, c'est pas une voiture qui est forcément promise à être en Q3, mais Berman arrive, je trouve, à la sublimer, entre guillemets. Je mets vraiment des guillemets. Et là, je regarde les précédentes grilles. Berman, parti 9e, il avait fait Q3. Et ça, c'est sur le Grand Prix de Singapour. Et si tu reprends Esteban, 17e.
C'est parce que tu as raison, en fait, Berman, on le entre guillemets, je ne sais pas qu'on le juge, mais on regarde son niveau par rapport à son coéquipier.
Oui.
C'est logique. Et donc, dans une voiture qui n'est pas très bonne, on se rend compte que Berman, en fait, là, il est en train de, malgré que la voiture ne soit pas très bonne, Esteban, lui non plus, n'arrive pas à l'amener plus loin. Et lui, il est capable de, là, en ce moment, effectivement, de la conduire correctement, de ramener des points. Il y a 8 points d'écart avec Ocon, et en 5 courses, il peut encore marquer des points et peut-être le battre au championnat. Donc oui, pour un rookie, on sent qu'il évolue, et face à un Esteban Ocon qui est très expérimenté, effectivement, il doit s'inquiéter un petit peu, même si moi je suis pas totalement c'est quand même une première saison lui aussi dans cette écurie. Ça va changer l'année prochaine, il y a quand même le partenariat avec Toyota, ça a changé aussi de team principal. Donc ça évolue aussi beaucoup en interne, donc on peut que espérer.
Mais attention, quand t'arrives, t'as Toyota, à un moment ils vont dire bon, ce serait bien d'avoir un petit pilote du cru. Ouais, il y a Yuki qui vient de partir.
Ouais, Yuki qui est plus. Mais peut-être moi
Kobayashi ce qui... aussi non,
c'est moi pas... ce qui moi ce qui avec nos deux Français Esteban et Pierre ce qui me fait peur. Alors ils seront pas les premiers, ils seront pas les derniers en Formule 1, mais c'est de voir des pilotes si talentueux finalement peut-être faire une carrière longue en Formule 1. Sans jamais, alors pour Pierre, on va mettre des guillemets sur ses 3 mois chez Red Bull, mais sans jamais avoir eu la chance de monter dans une voiture compétitive, en fait. Et tu te dis, les gars, ils vont faire une décennie en Formule 1, ils ont tout gagné chez les jeunes ou presque. Donc vraiment, ils faisaient partie de ce sérail de World Champion Contender, tu vois.
T'es très gourmand, parce qu'il faut se rappeler une époque où on avait presque zéro pilote à chaque fois.
Ah, oui.
On avait un coup, alors après, Romain Grosjean est arrivé, alors certains vont dire il est franco-suisse. On a eu un peu Jean-Éric Vergne aussi, mais t'as eu un trou à un moment.
Il n'y avait pas de pilote.
Il y a eu Pic aussi.
Charles Pic. Évidemment, tu avais entre la fin Panis, Alési, tu vois, de ces années 2000, on a eu un petit trou. Et là, au final, quand tu arrives et que sur 20 pilotes, tu as 3 pilotes français.
On est la deuxième nation la plus représentée.
Cocorico, quoi. Tu vois, il y a un moment, la période de disette.
Ouais. Quand même, mais ça, c'est clair que pour le coup, on est assez servi, mais je parlais plus.
Et on perd pas de baquet.
Eux, en tant que pilotes, au fond, tu te dis. Oui. J'ai 10 ans de carrière en F1, ouais. Machin, je fais partie des meilleurs et j'aurais eu que des tracteurs pour grossir le trait, évidemment. Et vous me direz, oui, non, mais il est allé chez Red Bull et tout. Oui, bon, il avait 20 piges.
Oui.
Il mériterait de pouvoir ressauter dans un baquet pour montrer de quoi ils sont capables.
Le problème, c'est que des baquets, il n'y en a pas non plus.
C'est ça.
Ils sont un peu bloqués en fait, dans leur situation. On en avait parlé quand justement Pierre Gasly avait signé chez Alpine, donc c'était il y a un mois ou deux, pour au moins 2 années. On s'est dit. Bon, en fait, il n'a pas le choix, clairement. Là, il est bloqué. Et, effectivement, je comprends aussi, et je te rejoins là-dessus, il y a 3-4 ans, il était chez AlphaTauri. Il arrivait à rentrer, il marquait des points. Et c'était un pilote numéro 1 dans l'écurie, avec une écurie qui était en bonne forme. Effectivement, il se retrouve chez Alpine, avec un coéquipier, Sebastian Ocon, où on sait que ça ne fonctionnait pas. Et en fait, il a régressé, il se retrouve dernier. Donc, il doit ranger son frein en attendant qu'on lui promette effectivement une voiture vraiment.
Parce qu'au final, il y a combien de baquets pour une équipe qui peut t'amener au titre de champion du monde ?
Non, mais t'en as 4. 6 les grandes années. Hein. 6, ouais.
Deux McLaren et une Red Bull.
Ouais.
Quand tu vois les pilotes qui sont devant, il faudrait peut-être Pierre et Esteban dans un rôle de numéro 2 dans une très bonne écurie, mais. Des Mercedes, on va essayer de faire promouvoir Antonelli, les pilotes de l'académie aussi, ces jeunes rookies-là. Donc c'est l'équation est quand même assez compliquée.
Bien sûr.
Mais dans 2 ans, une fois que on sera au bout de la deuxième année de la nouvelle réglementation, donc après 2027, peut y avoir un énorme big bang aussi. Hein.
Ouais. Puis c'est eux, Ocon et Gasly, qui sont les pilotes quand même de tête dans les écuries actuelles, parce que ils ont plus d'expérience, ils vont amener le développement et leur feedback pour développer aussi la voiture. On sait que ça va quand même être pour eux un avantage. Et finalement, du coup, on n'en parle pas trop, mais bon, Isaac Hadjar, peut-être que c'est lui finalement notre... c'est des mois qu'on attend de voir ce qui va se passer. Mais effectivement, c'est peut-être lui, ce pilote qui enfin, effectivement, permettra de montrer que, un bon pilote avec la bonne écurie, avec la bonne voiture, ça peut matcher.
Même si c'est toujours dur de confirmer, tu vois, quand tu fais une super première saison de rookie, c'est la deuxième qui est le plus dur.
Mais justement, lui, il est le seul Français qui a, on va dire, à court terme, la possibilité d'être dans un gros baquet.
Et de gagner un Grand Prix, même.
Et oui, il faut pas qu'il le rate, parce que... Alors, son week-end était pas très bon, voilà. Moi, j'ai dit lundi dans le débrief, il va réagir, il va faire une grosse course week-end, peut-être même podium. Je suis allé un peu fort, mais j'ai pas mis d'argent, donc c'est pas grave. Là, il faut quand même une fin de saison solide pour Isaac. Là, c'est pas le moment de se relâcher, Séraphin.
Il a prouvé pendant toute la saison qu'il était un excellent rookie dans sa monoplace avec des bons résultats, de très bonnes qualifications, très peu de fois, je crois qu'il sort une fois ou deux de la Q1, sinon il est toujours très haut. Là, ce qui se passe, pour moi, la dynamique, c'est plus par rapport à son coéquipier, en fait. Mm-hmm. Et Jean-Luc en parlait d'ailleurs lundi, c'est que, attention à Lawson, qui depuis plusieurs courses, et lui, il avait une saison catastrophique au début, où ils vont dans la Red Bull, on les vince au bout de 2 courses, et là, il reprend quand même du poil de la bête, et il semble se rapprocher dans la performance, en tout cas, de Isaac Hadjar. Donc c'est plus par rapport à Liam Lawson qu'on va voir où Isaac se positionne. Il faut qu'il finisse les courses tranquillement, qu'il fasse pas d'erreurs, ça c'est important. Et de voir par rapport à Liam Lawson comment ça se passe cette fin de saison, aussi face à Yuki qui semble aller mieux. On sait que pour l'instant, rien n'est pris officiellement chez Red Bull. On parlait à un moment donné du Mexique justement, de ce Grand Prix. Mais on le sait, c'est encore un peu de temps chez Red Bull pour être. Pour moi, Isaac, il a montré assez cette saison qu'il va monter dans la voiture, mais il n'y a rien qui fait. Donc, c'est à lui de prouver jusqu'au bout.
La bataille est passionnante pour intégrer le top 10 au classement des pilotes. Tu prends le 9e, c'est Hülkenberg avec 41 points. Ouais. Isaac est 10e. 39 points, Carlos Sainz 11e, 38 points, Fernando Alonso 12e, 37 points,
très serré, hein.
Lance Stroll 32 points en suite et Liam Lawson 30 points. Et donc si Isaac, qui reste top 10 pour valider vraiment sa bonne saison, et imagine là en l'espace d'un Grand Prix, il pourrait se retrouver 13 juste devant Lawson, ah, tu perds un petit peu en saveur. Donc ça serait super qu'il garde au moins allez, 9e ou 10e, rester dans ce top 10 parce que... Bah, tu fais quand même partie des 10 meilleurs pilotes et même tu peux résoudre, hein, t'enlèves les deux McLaren hein, parmi le reste du monde, ça t'enlève un petit peu le monde devant. Si t'enlèves les trois, les deux McLaren et Verstappen, ça te fait déjà voilà, une mise en perspective un peu plus intéressante.
Et puis les devants quand même, hein, Carlos Sainz, un Fernando Alonso qui sont quand même aussi des très bons pilotes, donc dans l'image effectivement que ça renvoie, c'est très positif.
Ça en jette plus que si tu es avec, entre Lawson et Antonelli, des rookies. Quoi, tu
vois,
t'as des grands noms. Quoi.
Bah, ça reste le meilleur. Antonelli,
Mais
dans les Mercedes quand même, même s'il est quand même très loin de Russell. Mais dans cette deuxième partie, on va dire, d'écurie avec des voitures beaucoup moins performantes, il est quand même toujours en tête. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais Carlos Sainz qui partira quand même avec 5 places
bien
de pénalité
sûr,
ce week-end. C'est quand même pas rien avec son accrochage avec justement Antonelli le week-end précédent. Donc à voir, mais effectivement, cette 10e place, elle va être passionnante aussi, sûr.
Bon, là, je crois que c'est l'heure du grand moment de ce podcast. C'est les pronos, les amis. Eh oui, c'est le moment de se mouiller. On y va avec tout simplement le vainqueur, la pole. Et le deuxième et le troisième du Grand Prix.
Là, tu veux la pole aussi ?
Ah oui. Moi, c'est... Attention, là, on rigole plus. Alors, qui va en premier ? Arnaud Séraphin ?
Alors, pole, Max Verstappen. Victoire, Max Verstappen. Deuxième, Max Verstappen. Deuxième, Lando Norris.
Ouais.
Troisième, Charles Leclerc.
Ok.
Bon, je fais le même podium qu'à Austin. Ouais. Je me fous pas.
Toi, c'est la, comment on appelle ça, la régularité, la constance. Ouais. Là, c'est la dynamique du moment pour toi. Séraphin, ton prono.
Moi, je vais aussi mettre Verstappen. On repense cette course, qui serait quand même, si là il la gagne, on va vraiment commencer à voir le titre se rapprocher. En deuxième place, allez, je vais mettre Piastri. Mm-hmm. Voilà. Et en troisième place, je vais mettre Russell.
Russell.
Et Lewis Norris.
Dans le mur à quel virage.
Sur une situation, et Ferrari aussi, pas les oublier, ils sont quand même plutôt bons sur ce circuit. D'ailleurs, Ferrari, malheureusement, ça fera un an qu'ils n'ont pas remporté de victoire. Mmh. C'était l'année dernière avec Carlos Sainz. Ça fait mal quand même de repenser ce chiffre. Donc,
et le poleman, Verstappen aussi, du coup, j'imagine, si tu le vois gagner.
Ouais, je pense que Verstappen, il peut vraiment, il est incroyable, il peut faire la différence, ouais.
Ok les gars, bah c'est pas mal. Moi je vous dis, je suis à peu près d'accord avec vous, on va pas inventer des choses, mais je vous dis, suivons Isaac ce week-end, il va remettre les pendules à l'heure, je le vois bien. Alors le podium, j'exagérais un peu, même ça ferait rêver, mais tu vois, top 6 même, tu vois, enfin vraiment une belle course solide, entouré que de grands avec des voitures un peu au-dessus de lui quoi. Mais bon, ça, c'est pour tout le week-end. Le drapeau à damier du warm-up est agité, les amis. Merci à vous, messieurs. Merci.
Merci.
N'oubliez pas, chers auditeurs, notre page Insta et TikTok RMC Formule 1, de noter les podcasts. Petite pub personnelle, vous avez aussi le podcast du quiz de Louis Gerbier de Rotten Sans Flamme. C'est moi. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Ça me fera du bien.
Vous pas le podcast des grandes gueules aussi.
Non, mais
vous nous faites de la pub de temps en temps.
Oui, c'est vrai. À chaque fois qu'on
salut
peut,
Alain
on en fait.
Salut Alain et Olivier.
Ben oui, Alain qui est un supporter Ferrari aussi, lui.
Ah bah entre le GC Nice et Ferrari, il est bien tombé. Hein.
C'est bon, ça là, il est parti en vacances, il est en dépression profonde, mais tout va bien. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end devant le Grand Prix. On se retrouve lundi pour le débrief de ce Grand Prix de Mexico. Ciao tout le monde, n'est pas Racing qui veut.